cette demande, cette dernière demande du Notre Père, délivre-nous du mal, est en fait un peu curieuse, parce que elle est trop simple et trop claire. Je dirais que pour une fois, on comprend exactement ce que cela veut dire, cela ne pose pas de gros problèmes, délivre-nous du mal. Et en même temps, là où c'est difficile à comprendre, c'est qu'elle se trouve d'une certaine manière un peu redondante par rapport à la précédente. En effet, juste avant, nous disions « ne nous soumets pas à la tentation ». Et nous avions alors expliqué que ce mot-là ne voulait pas dire que Dieu pourrait essayer de nous tenter pour nous pousser à mal faire, mais que le sens de cette demande était plutôt « ne nous laisse pas succomber dans la tentation », c'est-à-dire « ne nous laisse pas être enfermés dans l'épreuve », ne nous laisse pas tomber, que nous soyons pris au piège, justement, de la tentation ou de l'épreuve, mais plutôt, libère-nous de cela. Mais oui, c'est ça, donc, libère-nous du mal, libère-nous de la tentation, délivre-nous du mal. Et donc, c'est ça qui m'embête. C'est que, en fait, cette septième demande semble être exactement la même que la précédente, ou tout au moins son explication, en quelque sorte. Alors on peut bien sûr en trouver un sens en première approche, qui est de dire, si Dieu ne peut pas nous éviter le mal, ce que je crois, parce que je ne pense pas dans un Dieu magicien qui ordonne toutes choses sur terre, mais je crois que s'il nous arrive du mal sur terre, eh bien c'est comme ça, ça ne dépend pas de Dieu. Ce que je crois, c'est que Dieu donc ne peut pas nous éviter le mal, mais qu'il peut au moins nous aider à ne pas en être prisonniers, à ne pas nous y perdre. Il peut nous aider toujours à nous sortir, à ce que nous puissions sortir de toute tentation, de toute situation difficile, de toute menace, de toute épreuve que nécessairement nous rencontrons dans notre vie. Et c'est dans ce Dieu-là que je crois. C'est pourquoi je vous ai lu ce psaume 31 qui a ce si beau verset disant « Tu as ouvert devant moi un passage ». Et c'est cela que j'attends de Dieu. C'est Dieu qui ouvre devant nous des portes, justement, qui ouvre devant nous des passages. Et lorsque nous croyons être enfermés dans une sorte de déterminisme, ou lorsque nous pensons que les événements, finalement, nous bloquent et nous forcent à être que ce que nous sommes et à être prisonniers de cela, Dieu est justement une force de libération, une force d'ouverture. Dieu, c'est la porte ouverte de la cellule du prisonnier. Oui, tu as ouvert devant moi un passage. Alors donc, oui, cette demande me convient tout à fait, et elle me plaît, je crois qu'elle est juste et bonne. Mais ce qui est quand même curieux, c'est ce que je vous disais au départ. Pourquoi le Notre Père aurait-il ainsi doublé, en quelque sorte, la sixième demande en l'expliquant? Alors l'évangile de Luc s'est posé ce même problème, puisque dans l'évangéliste Luc a tout simplement retiré cette demande. Et la version du Notre Père dans l'évangile de Luc dit juste « Ne nous soumets pas à la tentation, Amen », puisqu'il devait considérer que la suite était une redondance. Et c'est aussi ce que pensent d'ailleurs tous ceux qui aujourd'hui prétendent que le Notre Père n'a pas 7 demandes, mais 6, et beaucoup de commentateurs aujourd'hui pensent que les 2 dernières demandes sont en fait une seule et même demande. Mais cela ne me convient pas personnellement, pour 2 raisons. D'abord parce que, pour citer le grand Derrida, je dirais « excès d'évidence requiert toujours un supplément d'enquête ». Et quand il y a quelque chose de trop clair ou de trop simple dans la Bible, ou en général, il faut toujours se méfier avant de conclure qu'il n'en a rien à en dire. Et d'autre part, je crois qu'il ne faut pas sous-estimer le Notre Père. Il ne faut pas le sous-estimer il ne faut pas le sous-estimer en pensant que ce Notre Père qui par ailleurs est si succinct, ce Notre Père qui par ailleurs est si profond, dit des choses si essentielles en si peu de mots, tout à coup se laisserait aller à doubler une demande et à en rajouter sans qu'il y ait une nécessité. Non, je pense que le Notre Père ne parle pas pour ne rien dire, que le Christ n'a pas voulu délayer, mais que nécessairement, il doit y avoir là-dedans quelque chose de fort qui échappe à la première lecture. Alors, dans l'enquête que l'on peut mener à ce sujet, une première solution vient, qui n'est pas quelque chose de très original, c'est connu de beaucoup de commentateurs, vient d'une ambiguïté du texte lui-même. En effet, le mot que nous traduisons par « mal »,« délivre-nous du mal », c'est « peirasmon » en grec. En fait, il y a un doute d'un point de vue grammatical sur ce mot, parce qu'on ne peut pas savoir s'il s'agit d'un masculin ou d'un neutre. Et suivant qu'on choisit l'un ou l'autre, la signification en est changée. Si jamais il s'agit d'un neutre, c'est-à-dire, cela signifie à ce moment-là, délivre-nous des choses qui sont mal, délivre-nous des choses mauvaises, délivre-nous des situations mauvaises, des événements mauvais. Alors la signification de ce verset est bien ce que la traduction écuménique en a gardé, c'est-à-dire délivre-nous du mal en général, délivre-nous de tout mal. Mais cette traduction écuménique est une fois de plus calamiteuse. Je crois vraiment que les pauvres gens qui ont fait cette traduction ont réussi à faire un contresens par ligne dans cette demande du Notre Père, puisque aujourd'hui tout le monde pense que c'est tout sauf un neutre. Enfin, cette solution-là est justement ce qui donne le sens le plus faible à la demande. Et c'est justement cette idée-là qui rend le texte le plus insipide et qui lui retire tout intérêt. Par conséquent, je crois que c'est une fausse piste. Et en effet, si c'est un masculin, ce que semblent indiquer d'ailleurs tous les spécialistes de l'Évangile aujourd'hui, pour de multiples raisons, si c'est un masculin, il ne s'agit pas à ce moment-là de demander à Dieu qu'il nous délivre du mal qui nous arrive en général, mais qu'il nous délivre de celui qui est la personnification du mal, c'est-à-dire du mauvais en soi, donc du diable, si vous voulez. Et c'est en ce sens que la plupart de nos Bibles, elles, traduisent en général « délivre-nous du malin ». Alors aujourd'hui, ça ne fait pas grand sens, parce que il ne s'agit pas de nous délivrer du petit malin ou de celui qui est malin, mais le malin avec un grand M, c'est le mal en soi, et c'est une façon dont l'évangile de Matthieu désigne parfois le démon, le diable ou Satan. Il ne s'agit donc pas de demander simplement « délivre-nous de toutes sortes de mal », mais « délivre-nous, tire-nous des griffes même du démon, délivre-nous du diable, délivre-nous de Satan ». Et c'est bien cela qui est dans le texte. Puisque d'ailleurs, l'étude de l'évangile de Matthieu nous le montre, ce mot « malin », »,« peirasmos », »,« le mal en soi », revient plusieurs fois dans l'évangile, en particulier dans la parabole du semeur que je vous ai lue tout à l'heure. Quand Jésus dit que quand nous recevons la parole, il y a ceux qui ne reçoivent pas cette parole, mais qui s'en détachent tout de suite, c'est-à-dire qui rejettent cette parole d'amour et de pardon, parce que, dit-il, le malin vient et arrache la bonne semence qui a été plantée. Et l'évangile de Marc, pour ce même passage, va dire, non pas le malin, mais va dire « Satan arrive et arrache cette plante ». Et l'évangile de Luc, dans la même parabole, ne dira ni l'un ni l'autre, mais dira « le diable arrive et arrache cette parole ». Et donc le malin, dans l'évangile de Matthieu, c'est bien le diable. C'est Satan. C'est donc bien plus que de nous délivrer du mal en général, c'est de nous délivrer du diable lui-même, de l'origine même du mal que nous demandons à Dieu de faire pour nous. Alors ça, cela pose évidemment une autre question. Et nous devons, par un petit excursus, je crois, essayer de régler la question de ce diable et de Satan. Parce qu'en effet, il n'y a pas là une unanimité chez les chrétiens. Vous savez que certains chrétiens croient au diable, c'est-à-dire ont une image relativement personnelle du diable. Et pour d'autres, comme moi, je l'avoue, pensent que par le mot diable, ou par le mot Satan, ou par le mot malin, ou autre chose que l'on utilise dans la Bible, on ne parle pas d'une personne, mais on parle du mal en général. C'est-à-dire de tout ce qui s'oppose à Dieu, et c'est un mot un peu commode, une sorte de mot fourre-tout, dans lequel on range tout ce qui s'oppose à la volonté de Dieu, sans que cela soit forcément une personne ayant une volonté, un projet, une intelligence, etc. Et en effet, j'ai une conception très monarchique de Dieu au sens de la théologie, c'est-à-dire je crois que le monde n'est gouverné que par une seule force active. Il n'y a qu'un principe dans le monde, c'est Dieu. C'est-à-dire que le monde est une sorte d'inertie matérielle qui est soumise à une puissance de complexification et de création que j'appelle Dieu. Mais je ne crois pas qu'il y ait quelque part une sorte de principe ou de puissance qui tire dans l'autre sens ou qui essaye de démonter ce que Dieu aurait monté dans un autre côté. Donc je crois qu'il n'y a que Dieu à l'œuvre dans le monde. Alors bien sûr, tout ce qui arrive dans le monde n'est pas la volonté de Dieu, mais parce qu'il y a effectivement du mal dans le monde. Mais ce mal ne vient que de force d'inertie, ne vient que de rater, en quelque sorte. Ou s'il y a un mal concret, à ce moment-là, il est l'œuvre de l'homme. C'est-à-dire que l'homme, lui, peut jouer le rôle de diable, parce qu'il peut organiser la mort. Mais pour le reste, le mal qui arrive dans le monde est par essence même hasardeux. Pourquoi là il y a un enfant qui naît mal? Pourquoi il y a là un accident? Pourquoi une maladie ici et un tremblement de terre là? Tout cela c'est le désordre et c'est le hasard. Et je ne crois pas qu'il y a un diable envoyant une maladie à tel endroit, organisant un tremblement de terre à tel autre. Mais justement le mal frappe au hasard. Le mal, c'est le désordre, c'est l'hasardeux et le désordonné. Et quand le mal s'organise, c'est que c'est l'homme qui l'organise. Par exemple, si Hitler organise de tuer tous les Juifs, là, il y a une organisation du mal. Mais c'est d'ailleurs notre chance, parce que s'il y avait un diable et si le mal était organisé, on aurait beaucoup plus de peine à s'en sortir. Par conséquent, je ne crois pas, si vous voulez, au diable en quelque sorte, mais je pense que c'est un mot que l'on utilise pour désigner des situations, des êtres, des événements qui, à un moment donné, s'opposent au plan créateur de Dieu. Et en ce sens, je ne crois pas au diable, mais je crois qu'il y a des situations diaboliques, où il y a des événements diaboliques, il y a des êtres qui peut-être, à certains moments donnés, peuvent être diaboliques. Bon, je pense la même chose des anges, entre nous soit dit. Je ne crois pas aux anges avec des ailes, mais je crois que l'ange, en tant que porte-parole de Dieu, il y a des situations, des êtres ou des événements qui sont pour nous des vecteurs d'une parole d'amour. Il y a des moments, des choses ou des êtres qui nous font comprendre quelque chose de positif, de vital ou de créateur, qui nous font comprendre que nous sommes aimés et que nous sommes pardonnés. Et ces paroles qui nous procurent la paix sont des paroles d'anges, mais je ne crois pas aux anges comme personnes qui se promèneraient à gauche ou à droite. Et donc on peut dire qu'une seule et même personne peut être par moment un diable et par moment un ange, sans qu'il faille forcément assimiler de façon profonde et durable la chose. Un exemple très typique, c'est ce dialogue que l'apôtre Pierre va avoir avec Jésus. Au moment où, vous savez, Pierre va faire cette belle confession de foi au Christ, et le Christ lui dira « Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église ». Juste avant ce dialogue, Jésus raconte qu'il va falloir qu'il aille jusqu'au bout de sa mission et mourir, sans doute, et Pierre essaye de l'en dissuader. Il lui dit « Non, Seigneur, cela ne t'arrivera pas, il ne faut pas que tu meures, il ne faut pas que tu souffres ». Et Jésus, à ce moment-là, lui dit cette phrase plus que célèbre dans l'Évangile, « Arrière de moi, Satan, arrière de moi, Satan, car ta parole est pour moi une occasion de chute. » Et donc Jésus dit clairement à l'apôtre Pierre qu'il est Satan. Et s'il fallait prendre au sérieux cette parole, alors nous devrions croire que Pierre est l'incarnation de Satan, et que donc lorsque, deux versets plus loin, Jésus lui dira, parce qu'à ce moment-là Pierre aura dit « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant », Jésus dira à Pierre, « Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église », nous devrions croire que toutes nos églises chrétiennes sont des églises sataniques. Mais non, justement. Pierre est peut-être Satan au moment où il essaye de dissuader, d'éloigner le Christ de son projet et de sa vocation. Mais une minute après, Pierre n'est plus du tout du Satan, il est plutôt de l'ange, parce qu'à ce moment-là, il aura dit la plus belle confession de foi qui soit, et ce n'est pas sur Satan que le Christ construit son Église, mais sur le Pierre qui confesse sa foi, c'est-à-dire sur cette parole angélique. Ainsi donc, je crois que notre demande, à laquelle je reviens, « délivre-nous du malin, délivre-nous du démon », n'est pas à comprendre dans le sens d'une gigantomachie où il y aurait une querelle entre Dieu et le diable, et où nous serions tiraillés entre Dieu et le diable, et nous demandons à Dieu, dans ce combat, de nous libérer du diable qui essayerait de mettre ses griffes sur nous. Il ne s'agit pas de cela. Il ne s'agit pas du diable qui voudrait s'emparer de notre âme. Mais il s'agit plutôt du mal en tant que tel, de nous libérer du mal à l'état pur, je dirais, de nous libérer de l'origine même du mal, de la racine même du mal dans nos vies. Et si l'on entend ainsi ce malin comme étant justement quelque chose de beaucoup plus fort et de beaucoup plus profond que le mal en général, c'est pour dire, pas seulement libère-nous des contrariétés qui nous affectent, libère-nous des difficultés qui peuvent nous troubler dans notre vie, mais c'est plutôt libère-nous plutôt du mal en soi, de la tentation profonde et même du mal, c'est-à-dire de l'origine même du mal. Et on peut comprendre à ce moment-là qu'il y a une certaine progression, une certaine logique dans ce Notre Père. Parce que sont traités là, dans ces trois dernières demandes, notre problème fondamental de relation par rapport au mal. Et donc il y a « pardonne-nous nos offenses ». C'est de dire à Dieu, libère-nous du mal que nous avons fait, déjà. Oui, j'ai fait le mal, Seigneur, pardonne-moi, que je ne sois pas prisonnier et bloqué par ce mal que j'ai fait. Ensuite, il y a ne nous soumets pas à la tentation. Ça, c'est plutôt, c'est la suite. C'est par rapport au mal qui est là présent et qui déjà me tente. Fais, Seigneur, que je ne tombe pas à faire ce mal-là. Et enfin, la troisième demande, « délivre-nous du malin », c'est plutôt d'aller encore un cran plus loin et de dire « libère-moi, Seigneur, de l'idée même de mal faire ». Vous voyez qu'on remonte encore plus loin. Il y a donc une progression, je crois, qui est, si on veut bien croire qu'il s'agit de « libère-nous du malin », c'est-à-dire du démon, il y a une progression qui est très logique dans ce « Notre Père », qui vise à une libération de plus en plus profonde de nous-mêmes par rapport au mal. Oui, libère-nous, délivre-nous du malin, cela veut dire libère-nous du désir même de mal faire, libère-nous de la racine même du péché. Et cela est très cohérent, je crois, par rapport au discours du Christ. Quand Jésus dit, vous savez, ce ne sont pas les bons arbres qui donnent de mauvais fruits ou on ne cueille pas des figues sur des épines, etc. Mais l'homme bon tire ce qu'il fait de bon du bon trésor de son cœur. Je crois que c'est vrai. Et en effet, ce qui compte pour le Christ, ce n'est pas d'essayer d'avoir dans sa vie une sorte d'attitude héroïque, vous voyez, pour résister au mal, pour ne pas faire ce que l'on ne doit pas faire et pour se contraindre à faire ce que l'on devrait faire. Ce n'est pas ça l'Évangile. L'Évangile nous dit, on ne peut pas forcer un mauvais arbre à donner de bons fruits. Et si vous êtes bon, vous ne pourrez que faire du bien. Donc ce n'est pas au niveau de la morale ou au niveau de la contrainte morale qu'il faut agir. Ce qu'il faut, c'est convertir le cœur. Et ce qu'il faut, c'est qu'au fond de soi-même, on ait un cœur qui soit attendri, meilleur, pour que nous ne puissions que vouloir et faire le bien. Et donc ainsi, ce que nous sommes appelés à faire, c'est à travailler à notre propre conversion, pour ne même plus avoir l'idée de faire le mal. Et sans arrêt, le Christ remonte ainsi, toujours le plus haut possible, dans cette question du bien et du mal dans notre vie. Et quand il dit, par exemple, dans le sermon sur la montagne, vous avez entendu qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Mais moi je vous dis, quiconque a déjà dans sa tête l'idée et l'envie de commettre l'adultère avec la femme de son prochain, il l'a déjà commis. C'est-à-dire que, voyez, il ne dit pas l'important c'est de ne pas faire le mal et d'y résister. L'important c'est d'apprendre à ne même pas avoir l'idée du mal. Et c'est là une révolution essentielle que le Christ a opéré dans le judaïsme de son temps. C'est qu'à ce moment-là, le judaïsme des pharisiens, en tout cas, était une religion d'observance. C'était une morale, en quelque sorte, ce qui visait à interdire certaines choses, à exiger certaines autres. Mais le Christ dit, ce n'est pas cela. Il faut convertir le cœur pour que la personne devienne elle-même meilleure et qu'ainsi elle fasse d'elle-même ce qui est bien. Bon, ça c'est vrai. Mais cela dit, le Notre Père ne nie pas quand même qu'il puisse y avoir des luttes contre le mal ou contre la tentation dans nos vies. Et c'est pourquoi nous demandons bien à Dieu, oui, que nous ne succombions pas dans la tentation ou dans l'épreuve, mais il est essentiel que la prière ne s'arrête pas là et qu'elle aille encore plus loin et qu'elle conclue toutes nos demandes par le fait qu'avec l'aide de Dieu, nous puissions être libérés de la tentation même de faire le mal. Voyez, ce n'est non pas tellement que dans la tentation je ne chute pas, mais c'est libère-moi même de la tentation. Et ainsi d'ailleurs, si on garde cette demande ainsi, la prière du Notre Père devient beaucoup plus cohérente, parce qu'elle devient même symétrique. En effet, au début du Notre Père, nous demandons que ton nom soit sanctifié, c'est-à-dire que nous reconnaissions en Dieu le seul centre de notre vie, le cap fondamental, que nous sachions nous recentrer sur lui. Et à la fin, en conclusion, nous demandons qu'il n'y ait pas d'autre Dieu que lui qui dirige ou qui domine dans notre vie, qu'il n'y ait pas d'autre objectif essentiel que l'amour et le pardon, qu'il n'y ait pas d'autre préoccupation ultime dans notre vie que lui, afin que nous ne nous égarions pas de lui qui est la source de la vie. Et c'est ça pour nous le diable et le démon. C'est tout ce qui peut remplacer Dieu comme un objectif pervers, comme un but, un idéal mauvais et qui nous éloigne de la vie et de l'amour. Et donc, voyez-vous, cette septième demande n'est pas, je crois, du superflu. Et certes, on pourrait croire qu'elle n'ajoute pas grand-chose de neuf, mais qu'elle continue, en fait, dans le même sens de la précédente, mais je crois que c'est même encore plus que cela. C'est encore plus que cela parce que je pense que cette septième demande ne se rapporte pas qu'à celle qui précède, mais cette septième demande est en quelque sorte une forme de conclusion pour l'ensemble de la prière du Notre Père. Et ce qui m'a mis la puce à l'oreille à cet égard, c'est que je me suis dit, tiens, il y a sept demandes, comme les sept jours de la création. Or, qu'est-ce que Dieu a fait le septième jour de la création? Eh bien, justement, le septième jour de la création, Dieu a fait à peu près rien. Je dis à peu près rien parce qu'en tout cas, il n'a fait aucun travail. Et donc, dans la Bible, le septième jour de la création est décrit très très rapidement. De même que dans tous les commentaires du Notre Père, cette septième demande tient en un quart de page, parce qu'aucun commentateur n'a rien à en dire. Et pourtant, je pense qu'elle est fondamentale et essentielle. Parce que le septième jour de la création, Dieu n'a pas rien fait. Mais on nous dit Dieu ne fit aucun travail, c'est vrai. Mais on nous dit que Dieu bénit alors l'œuvre de sa création. C'est-à-dire qu'il y a, dans le septième jour, rien de matériel et de concret. Mais dans le septième jour, Dieu apporte une dimension spirituelle. Il apporte autre chose en plus. Et que par conséquent, peut-être que justement, de dire à Dieu « Libère-nous du malin », c'est bien plus que de demander que nous ne fassions pas trop de mal ou d'erreurs dans notre vie. C'est aussi de demander à Dieu que nous puissions lui appartenir tout entier, que nous soyons entièrement à lui, sans qu'il n'y ait rien qui nous éloigne de lui. C'est-à-dire qu'on est justement dans l'ordre de la sanctification et de la bénédiction. Et c'est ça le sens de la sanctification, en effet. C'est de donner une dimension spirituelle à notre vie. Et c'est de rechercher cette dimension spirituelle qui peut non seulement donner sens à toute notre vie, mais qui peut aussi donner sens à toutes les autres demandes. Oui, délivre-nous du malin, délivre-nous du démon, délivre-nous de toute orientation perverse de notre vie qui nous éloignerait du sens même de la vie. Et puis enfin, il y a peut-être un dernier rapport à l'Ancien Testament que je voudrais vous dire en quelques mots et qui est peut-être éclairant. C'est que quand on parle de délivrer, de la main par la main de Dieu, on ne peut que penser à une chose. C'est à la libération d'Égypte. Quand le peuple, vous savez, en effet, était prisonnier en Égypte, on nous dit, et c'est toute la question de l'histoire sainte, que Dieu a libéré le peuple d'Égypte et qu'il l'a fait sortir d'Égypte. C'est comme cela que commence d'ailleurs la grande confession de foi des Juifs, là, et des 10 commandements. « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai libéré du pays d'Égypte, qui t'ai libéré du pays de servitude. » Donc Dieu est celui qui nous libère de l'esclavage, justement, et qui nous permet de trouver le sens même de sa présence en tant que sa présence est pour nous source de vie et de liberté. Et ainsi, on peut dire qu'il y a là quelque chose de cohérent, encore une fois. C'est que dans l'interprétation que l'on a fait d'habitude de cette libération d'Égypte, c'est de dire que le peuple, s'il était arrivé là-bas, en Égypte, 400 ans avant d'en ressortir, c'est qu'il avait faim. Et il y avait de la famine, il y avait des réserves en Égypte, il y est allé pour manger. Ça n'est pas critiquable. On a bien le droit de manger et de vivre matériellement. Par contre, ce qui est mauvais, c'est qu'ils y sont restés. Et c'est lorsque, effectivement, les problèmes matériels et concrets deviennent ce qui nous retient prisonniers, là, il y a danger dans notre vie. Et lorsque l'on s'installe, en quelque sorte, dans une vie qui n'est là que pour manger ou que pour satisfaire, je dirais, ses biens, ses besoins et ses désirs terrestres, là, c'est dangereux parce qu'on en devient prisonnier. Et le peuple en Égypte était donc prisonnier du matérialisme, prisonnier du quotidien, prisonnier du métro-boulot-dodo, de la vie courante, avec toutes ses exigences. Et ce qui lui manquait, c'était justement une dimension spirituelle. D'une quête d'autre chose. Et Moïse va dire justement au Pharaon, « Laisse sortir mon peuple pour qu'il puisse adorer son Dieu, pour qu'il puisse justement mener cette quête spirituelle. » Alors Dieu va libérer le peuple d'Égypte. Il va le libérer du malin. Il va le libérer du mal. Et toute cette libération, on va voir qu'elle est extrêmement compliquée. Et alors que cette demande semble si simple, c'est peut-être justement l'une des plus difficiles et des plus complexes à vivre. On voit ce peuple qui traverse des océans d'ignorance, des océans de violence, des mers d'agressivité et d'incrédulité. On voit ce peuple qui, alors perdu dans le désert, reçoit une parole, mais qui se rebelle, qui un jour croit, le lendemain ne croit plus, qui doute, qui a confiance, et puis qui crève de faim, ce Dieu qui l'accompagne, et qui se perd dans le désert. Enfin, c'est toute cette histoire qui est très étonnante du peuple juif, qui est notre histoire, dans notre quête, dans notre recherche de vérité, de lumière, de paix, de tranquillité et d'idéal. Et toute cette quête, la Bible nous dit que toujours Dieu était là devant et qu'il les guidait. Et c'est dans cette demande du Notre Père, cela que nous demandons avec insistance, effectivement, que Dieu nous libère et nous délivre de ce malin, de ces pièges du matérialisme qui nous enferme, afin que nous puissions avancer dans ce désert dirigé par lui. Et il y a là une lecture qui m'a plu quand, cherchant dans les psaumes, un texte qui résume cette histoire de la libération, que nous demandons tant à Dieu dans le Notre Père, eh bien, je suis tombé sur ce psaume 136 qui raconte cette libération et qui entrelarde, voyez-vous, vous l'avez entendu, chacune des demandes par une seule même proclamation concernant Dieu, son amour dure à toujours. Et il y a là quelque chose que je crois peut-être une des plus belles réalités de cette lecture de l'Ancien Testament, de cette libération. C'est de dire que dans tous ces chaos de notre existence où nous essayons de cheminer avec Dieu vers la liberté, eh bien, même si nous sommes dans une démarche chaotique et difficile, il y a quelque chose de constant et de permanent, c'est l'amour de Dieu qui nous accompagne. Et ce psaume est merveilleux. Et voici, il fit sortir le peuple d'Égypte. Son amour dure à perpétuité. Et il leur fit passer la mer rouge. Son amour dure à toujours. Et il les mena dans le désert. Son amour dure à toujours. Et on a là, comme ça, 30 fois, 35 fois, je crois, son amour dure à toujours, qui nous rappelle que Dieu est effectivement une source de libération, non seulement parce qu'il peut nous permettre de nous orienter vers un meilleur idéal que celui du matérialisme ambiant, mais aussi parce qu'il y a cette permanence et cette constance de l'amour de Dieu qui est toujours là présent, et que pas un moment dans cette démarche, même si elle est erratique et difficile, nous ne sommes coupés de l'amour de Dieu et de cette présence qui nous accompagne et qui est la source de tout bien, non seulement intérieurement pour nous, mais aussi pour tout ce qu'il réalise en nous. Amen.